Et c'est l'heure du journal présenté par Aurélie Kiefer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. Plus de 5 milliards d'euros mobilisés sur 5 ans pour redynamiser les centres-villes. 222 villes moyennes réparties sur tout le territoire vont bénéficier de ce plan. Hommage aux victimes des attaques djihadistes de l'Aude, à l'Assemblée comme au Sénat, à ceux qui réclament le rétablissement de l'état d'urgence. Édouard Philippe répond qu'il faut combattre la menace terroriste qui va durer de longues années avec des armes de droit commun. L'école obligatoire dès 3 ans, c'est dans l'objectif de réduire les inégalités, a expliqué Emmanuel Macron aux assises de la maternelle. Et puis la pénurie de médicaments et de matériel médical s'aggrave au Venezuela, une crise sanitaire que Caracas impute aux sanctions financières imposées par les États-Unis. Morlaix, Dunkerque, Forbach, Besançon, Montélimar, Cognac ou Vierzon, mais aussi Fort-de-France, Mamoudzou ou Cayenne, 222 villes vont bénéficier du plan Action Cœur de Ville. Un plan gouvernemental destiné à favoriser la revitalisation des centres-villes et qui vise tout particulièrement des communes de 30 à 50 000 habitants. Bonsoir Anne-Laure Chouin.
Bonsoir Aurélie.
Concrètement, en quoi est-ce que ce plan va permettre à ces villes moyennes de faire revenir habitants et commerçants?
Alors d'abord, il va mobiliser des moyens, 5 milliards d'euros sur 5 ans, pour que ces villes moyennes qui concentrent 23% de la population et 26% de l'emploi, eh bien, elles arrêtent de perdre des habitants, voire en regagnent, pour leur permettre également de retrouver une vitalité commerciale, culturelle et d'y faire revenir suffisamment de services publics, administration, équipements culturels, mais aussi transports. Concrètement, il s'agira de mettre sur pied dans les mois qui viennent autant de projets qu'il y a de villes concernées, des projets à l'échelle de l'intercommunalité qui diront spécifiquement quelles actions sont nécessaires ou parfois déjà en cours. Autant de villes, donc autant de projets qui seront mis en œuvre dès que possible et déclinés autour de 5 axes. Réhabilitation et ou restructuration de l'habitat, qui devra être proposé, cet habitat, à des prix attractifs, ceci afin de faire revenir en centre-ville des populations à petits moyens. Favoriser un développement économique et commercial équilibré, en gros. Cela signifie ne pas laisser les meilleurs emplacements aux grandes chaînes d'habillement, par exemple, mais laisser la possibilité à des petits commerçants d'en profiter aussi via une dispense de demande d'autorisation auprès de la commission départementale. C'est aussi imaginer des animations commerciales en centre-ville, tant reste encore ancré dans la tête des décideurs l'idée qu'un centre-ville dynamique, c'est un centre-ville où l'on consomme. Des centres-villes qui, enfin, doivent s'adapter au XXIe siècle. Un concours international pour réinventer le cœur des villes va être lancé auprès d'architectes et de paysagistes. Le centre-ville idéal, imaginé par ce plan, c'est une place centrale requalifiée, des édifices patrimoniaux reconvertis, des logements sociaux rénovés, des anciens bâtiments restaurés, des espaces de travail collaboratifs, le tout en interaction avec l'environnement immédiat et notamment agricole. Vaste programme.
Et donc Anne-Laure Chouin, maintenant comment est-ce que les mairies accueillent ce plan? Pour le savoir, nous allons en Dordogne où deux communes vont bénéficier de l'action Cœur de Ville, Périgueux et Bergerac, 28 000 habitants. Malgré des atouts architecturaux et touristiques, le Cœur de Ville de Bergerac est en souffrance et ce plan tombe à point pour le maire Daniel Garrigue.
Alors, en matière de redynamisation commerciale, on a un certain nombre d'opérations importantes à mener sur lesquelles on travaille avec l'établissement public foncier, ce qui peut permettre de faire du portage financier, mais ça va nous permettre d'amplifier les actions et puis de mener des actions qui répondent plus directement aux préoccupations des commerçants sur le mobilier urbain, sur le réaménagement d'un certain nombre d'avenues, avec des périmètres, si vous voulez, de cœurs marchands qui seront mieux délimités. Et puis, troisième volet sur l'aménagement urbain. Bon, Bergerac, on a un port fluvial, mais enfin un vieux port fluvial. On a des projets importants autour de ce port, notamment une maison du tourisme et des vins. Et, mais on a aussi des tas de projets de réaménagement d'un certain nombre d'avenues et de boulevards qui sont dans le centre-ville et qui ont besoin d'être rénovés, si vous voulez. Il y a vraiment tout un ensemble d'actions sur lesquelles on avait déjà travaillé et pour lesquelles ce plan, je pense, va nous apporter un soutien très important.
Daniel Garrigue, maire de Bergerac, joint par Boris Loumagne. 3 médailles à titre posthume pour l'officier de gendarmerie Arnaud Beltrame, devenu héros national pour s'être substitué à une otage du djihadiste de Trèbes. Et une minute de silence sera observée demain matin dans toutes les gendarmeries, les commissariats et les préfectures de France, juste avant la cérémonie d'hommage national qui se déroulera aux Invalides et sera ouverte au public. Les parlementaires ont pris dès aujourd'hui le temps du recueil. Une minute de silence a été respectée à l'Assemblée comme au Sénat et c'est dans un silence inhabituel que les présidents de groupes politiques ont pris la parole tour à tour, Sophie Delpont.
Un moment très solennel d'union républicaine. Les 7 présidents de groupe ont chacun pris la parole pendant 3 minutes pour rendre hommage aux victimes et exposer leurs propositions dans la lutte contre le terrorisme. Jean-Luc Mélenchon, le chef du groupe France Insoumise, très offensif d'habitude face à la politique du gouvernement, a tenu cette fois-ci à apporter le soutien de l'opposition à l'action de l'exécutif, une intervention prônant l'union nationale.
Monsieur le Premier ministre, opposition, nous vous disons, nous sommes certains que vous, vos ministres et tous les services de l'État avez dans cette circonstance fait tout ce qui était en votre pouvoir du mieux que vous pouviez. Monsieur le Premier ministre, nous sommes disponibles pour l'union autour de la mémoire de ceux qui sont morts et de l'exemple qu'ils nous donnent. Appelez-nous à un deuil national et nous vous répondrons favorablement.
Une prise de parole très applaudie par l'ensemble de l'hémicycle, à l'exception du groupe LR. Son chef, Christian Jacob, demande le rétablissement de l'état d'urgence et l'instauration de la déchéance de nationalité qu'avait proposé François Hollande. Après les 7 interventions, Édouard Philippe leur répond. Le Premier ministre rend lui aussi hommage aux victimes et au lieutenant-colonel Beltrame, devenu un symbole de courage face au terrorisme.
Il incarne la République, il est son image, son corps.
Il répond également aux accusations de laxisme portées par la droite.
Depuis 2015, 48 étrangers liés aux mouvances terroristes ou islamistes ont été expulsés.
À propos des fichiers S,
certains nous disent expulsez-les tous. D'autres nous disent enfermez-les tous. Je vais vous dire ma conviction. Elle s'appuie sur l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789. On ne peut pas, mesdames et messieurs, interdire une idée. On peut sanctionner les comportements qu'elle entraîne, s'ils sont contraires à l'ordre public, aux lois de la République et aux exigences minimales de la vie en société.
Un discours applaudi debout par l'ensemble des députés. Seule la droite non constructive a préféré le silence.
Sophie Delpont, celui qui s'était réjoui vendredi sur Twitter de la mort d'Arnaud Beltrame, l'ancien candidat de la France insoumise, Stéphane Poussier, a été jugé en comparution immédiate pour apologie publique d'un acte de terrorisme et il a été condamné à 1 an de prison avec sursis. Stéphane Poussier a présenté ses excuses à la famille, aux proches et aux collègues d'Arnaud Beltrame, reconnaissant avoir agi de manière irrationnelle. Nicole Belloubet annonce qu'Édouard Philippe recevra demain les membres de la famille de Mireille Knoll pour leur dire la détermination du gouvernement à ne rien laisser passer, explique la ministre de la Justice. Mireille Knoll, rescapée de la Shoah, a été tuée vendredi dans son appartement parisien. 2 hommes ont été mis en examen pour homicide volontaire à caractère antisémite et vol aggravé. Et l'ensemble des partis politiques ont annoncé leur participation à la marche blanche organisée demain. Seule Marine Le Pen n'y sera pas. Le Conseil représentatif des institutions juive de France ne souhaitant pas la venue du Front National. Et par ailleurs, Jean-Marie Le Pen est définitivement condamné pour avoir qualifié les chambres à gaz de détails de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Alors là, il s'agit de sa déclaration d'avril 2015, puisqu'il avait déjà été condamné pour ses propos de 1987. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de Jean-Marie Le Pen. Il doit donc s'acquitter d'une amende de 30 000 euros. Venons-en à un sujet plus joyeux, celui de l'école maternelle, même si Emmanuel Macron a fait allusion dans son discours aux attentats terroristes. En ouverture des assises de la maternelle, le chef de l'État a donc annoncé qu'il voulait rendre l'école obligatoire dès 3 ans, car c'est à l'école que se tisse l'étoffe de notre bien commun, a déclaré le président. Alors, l'école dès 3 ans, c'est déjà presque le cas aujourd'hui. À cet âge, 97% des enfants sont scolarisés, mais l'idée, c'est de lutter contre les inégalités. Bonsoir Cécile de Kervas-Doué.
Bonsoir.
La maternelle pour tous, ça peut vraiment aider les enfants défavorisés?
Dans l'idée du président et de son ministre de l'Éducation, rendre l'école obligatoire pour tous dès 3 ans, c'est permettre finalement à tous les enfants d'avoir le même accès au langage, mais aussi à ce qu'ils appellent les apprentissages affectifs, c'est-à-dire la culture et les arts. Ce qui placerait finalement l'école maternelle française à mi-chemin entre le modèle de l'école orientale, fondé sur la performance à tout prix, et le modèle plus ludique des pays d'Europe du Nord. Car, explique le neuropsychiatre Boris Cyrulnik, plaisir et effort ne sont pas antagonistes, surtout avant 6 ans.
C'est une période sensible où l'apprentissage est fulgurant. Si on rate cette période des petites années, il faudra beaucoup travailler pour rattraper. Or, actuellement, une partie des enfants, c'est pas la majorité, c'est à peu près 15% des enfants, ont beaucoup de mal à se socialiser. Or là, on a une possibilité pour faire de ces enfants des bien partis dans l'existence.
Mais pour y parvenir, il faut des moyens pour former de nouveaux professeurs de maternelle et pour former les 52 000 ATSEM qui les accompagnent, mais aussi des moyens pour mieux aménager les écoles. Parce que si l'école devient obligatoire, cela veut dire que le temps de sieste le devient aussi, rappelle la psychologue clinicienne Liliane Némette-Pierre.
La sieste, ça n'est pas du temps perdu. Le temps de repos, c'est quelque chose de physiologique que même les adultes devraient ménager. Et il y a beaucoup d'enfants qui rentrent le midi et qui font pas du tout la sieste chez eux. Alors que à l'école, les conditions de sieste sont un petit peu difficiles. Ça dépend des écoles, ça dépend si on a des locaux à disposition pour la sieste, ça dépend si la salle de sieste est à côté ou non. Mais malgré des conditions difficiles, 81% des enfants dorment très bien à l'école et mieux qu'à la maison.
Alors pour l'instant, le ministère de l'Éducation nationale ne définit pas encore de budget. Les syndicats d'enseignants et associations de parents d'élèves promettent donc d'être vigilants sur la mise en place concrète de cette mesure.
Cécile de Kervas-Doué. Stéphane Audran est parti paisiblement cette nuit. C'est son fils Thomas Chabrol qui l'a annoncé à la mi-journée. L'actrice âgée de 85 ans avait reçu un ours d'argent à Berlin en 1968 pour Les Biches, film de son époux Claude Chabrol, et un César de la meilleure actrice dans un second rôle pour Violette Nozière Chabrol encore en 1979. Vous nous brossez son portrait, Jacqueline Pétroz.
Elle a fasciné toute une génération de cinéastes bien au-delà de son époux Claude Chabrol. Égérie de la nouvelle vague, Stéphane Audran était reconnaissable entre toutes avec cette voix un peu traînante, nonchalante, sa chevelure rousse et sa démarche élégante. Elle a commencé comme beaucoup à l'époque au théâtre dans les années 50 avant de faire la rencontre de Chabrol. Elle tournera dans 24 de ses films dont deux très grands succès, Les Biches avec Jean-Louis Trintignant.
Tu sais, à Paris c'était formidable. On a marché des heures dans les rues, on a été au Louvre. Il est tellement gentil avec moi. Il est drôle, tu sais. Je suis bien avec lui.
Et Le Boucher, avec Jean-Yann. Deux rôles qui lui vaudront d'être primés. Primé, Stéphane Audran le sera de nombreuses fois, pour Le Charme discret de la bourgeoisie de Buñuel, pour Violette Nozière de Chabrol, avec Isabelle Huppert.
Une petite fille doit d'abord sentir bon la savonnette.
J'ai trouvé des lettres dans ton tiroir.
Quoi, des lettres?
Tu n'as pas honte?
Et Le Festin de Babette de Gabriel Axel. Ce sera en 88 l'un de ses derniers grands rôles. Dans les choix de ses scénarios, elle aura toujours eu de l'audace, acceptant des rôles de grande bourgeoise, mais toujours complexes, voire décalés, comme dans Coup de torchon de Tavernier. Mais surtout, jouant souvent des femmes libres et indépendantes. Derrière une froideur apparente, Stéphane Audran aura marqué le cinéma par son magnétisme et la subtilité de son jeu.
La Commission européenne somme le patron de Facebook de s'expliquer sur la fuite de données de 50 millions d'utilisateurs du réseau social. Mark Zuckerberg n'a pour l'instant pas souhaité répondre en personne à la Commission parlementaire britannique sur le numérique, qui voulait l'entendre. À Bruxelles, Quentin Dickinson, la commissaire en charge de la justice lui donne 2 semaines pour répondre à une série de questions. Quentin ?
C'est en effet une manière d'ultimatum que lance Vera Jourova, commissaire européenne à la justice, aux géants américains de l'Internet. Sa première préoccupation, c'est de savoir le nombre de citoyens.
Quentin Dickinson, vous êtes toujours là ? Bon, on s'y semble qu'on est perdu. Quentin Dickinson à Bruxelles, on va voir si on arrive à le retrouver rapidement. Les annonces se succèdent depuis hier. 120 expulsions de diplomates russes ont été annoncées en réaction à l'empoisonnement en Grande-Bretagne de l'ancien espion russe Sergueï Skripal. Les États-Unis, le Canada, 17 pays de l'Union européenne, la Norvège et l'Australie ont annoncé des expulsions et l'OTAN annonce à son tour qu'il va retirer l'accréditation de 7 diplomates russes. Federica Mogherini tente de sauver le dialogue entre la Serbie et le Kosovo. Ce dialogue est menacé par l'arrestation et l'expulsion hier par les autorités du Kosovo d'un haut responsable gouvernemental serbe. La représentante de la diplomatie européenne fait donc escale à Belgrade, Laurent Rouy.
La représentante de l'Union européenne est attendue à Belgrade en fin d'après-midi. Elle va avoir fort à faire pour convaincre la Serbie de retourner à la table de négociation sur le Kosovo après l'arrestation musclée du ministre serbe Marko Djurica Mitrovica hier. Si le Kosovo n'avait effectivement pas autorisé l'entrée sur son territoire du ministre en charge des relations entre les deux capitales, rien ne justifiait la brutalité dont Pristina a fait preuve. Au cours de l'arrestation de Marko Djuric, les policiers ont utilisé des gaz lacrymogènes. Ils ont blessé 32 personnes, dont de nombreux journalistes et des maires de communes serbes du Kosovo, qui pourtant n'ont pas tenté de résister. Ils ont aussi traîné le ministre courbé en deux et menotté dans les rues de Pristina, sous la huée des passants, avant de l'expulser. Très remonté, le président serbe Aleksandar Vučić parle de terrorisme et a laissé entendre que les négociations Belgrade-Pristina, qui venaient tout juste de reprendre après un arrêt forcé de 2 ans, seraient de nouveau interrompues. Par ailleurs, les représentants de la minorité serbe du Kosovo ont annoncé qu'ils retireraient leur soutien au gouvernement à majorité albanaise, ce qui pourrait provoquer des élections anticipées au Kosovo.
Et on vous retrouve à Bruxelles, Quentin Dickinson, où la Commission européenne demande des explications au patron de Facebook, Mark Zuckerberg.
Oui, ce sont les aléas du direct, Aurélie. Alors je vous disais en effet que c'est une manière d'ultimatum que lance Vera Jourova, commissaire européenne à la justice, à ce géant américain de l'Internet. Alors la première préoccupation de Madame Jourova, c'est de savoir le nombre de citoyens dans l'Union européenne dont les données ont pu être exploitées à leur insu à des fins commerciales et politiques. Très logiquement, elle exige aussi de savoir, dans le détail technique vérifiable par ses services et par des experts indépendants, par quels moyens et dans quel délai Facebook entend remédier à la situation actuelle. Et estimant que le fondateur et toujours patron de Facebook est au cœur de l'entreprise et donc seul responsable des pratiques de celle-ci, elle fait aussi connaître son intention de ne se satisfaire que de la comparution de Mark Zuckerberg en personne. La méfiance de la Commission européenne vis-à-vis de Facebook n'est pas récente. L'année dernière, elle avait déjà infligé une amende record de 110 millions d'euros pour justification mensongère de son rachat de WhatsApp. Et les tout récents aveux d'un ancien directeur de Facebook, selon lequel le Brexit ne l'aurait emporté que grâce à l'exploitation illégale de données personnelles, ne fait rien pour rendre la messagerie américaine plus sympathique dans les milieux européens.
Merci Quentin Dickinson, en direct de Bruxelles. En pleine crise économique et sociale, le Venezuela est confronté à une pénurie croissante de médicaments. Ce qui affecte la production et l'importation de médicaments, c'est notamment la chute de l'attribution des devises par l'État vénézuélien. Selon un rapport réalisé par l'ONG Médecins pour la Santé avec l'Assemblée nationale contrôlée par l'opposition vénézuélienne, 88% des médicaments et 79% du matériel chirurgical manquent actuellement dans le pays. À Caracas, Julien Gonzalez a rencontré des patients atteints de maladies rénales et ayant bénéficié de greffes de reins. Ils rencontrent aujourd'hui d'énormes difficultés pour obtenir leur traitement.
Hôpital Clinico Universitario, Caracas, 8h du matin. Plusieurs patients attendent avec inquiétude. Tous ont reçu à un moment de leur vie une greffe de rein et nécessitent donc un traitement immunosuppresseur à vie. Des médicaments introuvables depuis de très nombreuses semaines, comme le raconte Désiré Biamonte.
Le médecin m'a fait faire des examens et je présente des signes de rejet de mon rein dû au fait que je suis sans traitement depuis 3 mois. Depuis décembre, je ne prends plus de médicaments parce que la pharmacie de la Sécurité sociale n'a pas mon traitement. Je suis très inquiète parce que c'est ma santé qui est en jeu, c'est mon rein. Sans rein, je retombe en dialyse et en ce moment, c'est très difficile de se faire soigner quand on est dialysé. Bien sûr que j'ai peur. Si tu perds ton rein et que tu n'es pas dialysé, tu meurs.
Osvaldo Rincon présente lui aussi un rejet. Il s'est rendu plusieurs fois à la pharmacie de la Sécurité sociale qui prend en charge les maladies à risque nécessitant un traitement coûteux, en vain. Et dans les autres pharmacies, son traitement est la plupart du temps indisponible ou alors à 6 millions de bolivars la boîte, comme le raconte sa fille, soit 10 fois plus que sa pension de retraite. Présente avec lui lors de sa visite à l'hôpital, elle ne cache pas son inquiétude.
Je lui ai donné mon rein et ça a été un vrai sacrifice économique. Nous avons réuni tout l'argent que nous pouvions pour cette greffe à cette époque où, au Venezuela, nous pouvions encore à peu près survivre. J'avais l'espoir que ce serait pour toute sa vie, jusqu'à ce qu'il meure, mais certainement pas qu'il meure à cause du manque de médicaments. Je suis très triste parce que mon papa est un homme qui a encore du temps à vivre. Je viens d'avoir une fille et je veux qu'il la voie grandir. Il y a quelques jours, nous avons vendu des choses dont nous n'avions pas besoin pour rassembler de l'argent et avoir des médicaments, même si nous n'en avons trouvé qu'un seul, qui est le plus important, le traitement anti-rejet.
Néphrologue et notamment spécialiste de la greffe de rein depuis 17 ans, Luis Hernandez décrit une situation chaque jour plus critique, car, comme l'explique ce médecin, s'il y a quelques années, le taux de rejet très faible était dû à une maladie, aujourd'hui, c'est le manque de médicaments qui met en danger ses patients.
La situation des patients avec une greffe de rein est vraiment un désastre. À l'hôpital, nous soignons environ 715 patients dans mon service. Parmi eux, nous avons en ce moment 25 patients qui présentent un rejet. 5 ont perdu leur organe et 4 d'entre eux sont morts. En situation de rejet, il faut utiliser une thérapie de sauvetage qui est aussi introuvable. Donc les patients retournent en dialyse, ce qui veut dire encore plus de patients en dialyse et moins de place, sans compter que c'est un drame biologique, psychologique et social.
Une angoisse qui a poussé des patients à se rassembler le mois dernier à Caracas à l'appel d'ONG de défense du droit à la santé. Lucila Velutini fait partie de la direction de l'Organisation nationale de greffe au Venezuela. Face à une situation insoutenable, elle demande aux autorités de réagir.
Le gouvernement devrait reconnaître qu'en ce moment, il y a une crise et que nous avons besoin de coopération internationale pour la résoudre. Ainsi, nous pourrions revenir à une normalité où tous les malades auraient accès à leurs médicaments.
Du côté des autorités, l'homme fort du parti chaviste au pouvoir, Diosdado Cabello, a récemment attribué le manque de filtres de dialyse aux sanctions et aux blocages. Le ministre de la Santé, quant à lui, a assuré à plusieurs reprises le mois dernier l'arrivée de filtres dans le pays.
Julien Gonzalez, correspondant de RFI au Venezuela pour France Culture. La météo, encore de la pluie et du vent demain. Les minimales iront de 5 à 10 degrés du nord au sud. L'après-midi, il fera 9 à 13 degrés dans le nord. Temps sec, mais voyez-les dans le sud et des maximales situées entre 13 et 20 degrés. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun.